RMC. PLM et tous les compagnies. Bon, PLM par-ci, PLM par-là. Oh, bah, on a le droit d'exister un petit peu ou pas?
Le Super Football Show.
Très 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 compliqué pour ces deux équipes. Je pense que l'équipe qui va recevoir aura peut-être l'avantage à domicile de jouer à la maison.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot.
Oh mon Dieu, bordel de merde, que c'est bon. Bordel.
Nicolas Villas.
Viva, ravi d'être avec vous, on est ensemble pendant deux heures, grand after, parce que oui, il n'y avait pas eu de match ce soir, c'était hier, le multiplex Ligue 1. Avec nous ce soir, attends, je me recoiffe vite fait là, on est sur BFM Sport et sur RMC bien entendu. Attends, parce que je suis coiffé n'importe comment là, sur BFM Sport, là je vois ça. Ça va Pierre Ducrot?
Ça va cousin.
Et toi?
Ça va, tout va bien, ouais. C'est le casque de la radio.
Mais le pire c'est que c'est vrai, alors attends, ouais, n'importe quoi hein, ce soir, j'ai oublié mon conduit là. Ah. C'est le truc avec lequel t'es.
Mais on va te la conduire l'émission, donc t'inquiète
tout
pas.
Tout est là, attends, qu'est-ce que tu crois? Ça va Daniel Riolo?
Salut les amis.
Tu vas bien?
Très bien.
C'est bien Marrakech?
Impeccable.
T'as bonne mine toi.
Ouais, ah bah ouais, Marrakech, tu veux faire quoi? Tu veux rester.
Bah du poker par exemple. Donc bah, t'enfermer dans une salle à moins que tu sois dehors.
Il y a du poker en plein
joué,
air.
J'ai joué, mais alors je vais te dire, là c'est.
Ça existe le poker en plein air?
Non.
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 Le strip poker, faut
faire ça. Tu joues dans une salle. Encore que.
Ah, mais c'est une donnée en plus, tu sais, avec la chaleur, la fatigue.
La table finale du Sismic qui est en train de se jouer en ce moment se joue sur une terrasse.
Sur une terrasse absolument
sublime d'ailleurs. Un très bel endroit.
Moi, mes premières images de poker, le souvenir que j'en ai, sur des chaînes américaines, etc., c'est dans les hôtels américains.
Ah, bah oui, non,
bah, c'est Vegas.
Au bord de la piscine.
Bah, Vegas,
sur les terrasses.
Non, généralement, c'est dans des salles climatisées à 17 degrés, tu te gèles si
non,
t'as
non,
pas
non,
un gel.
J'ai des souvenirs, de terrasses, de terrasses au-dessus de piscine, etc. Ouh, si,
c'était
si,
pas les mêmes films.
Rare, rare. T'as dû voir un tournoi comme ça, qui est peut-être celui qui joue au bas.
C'est dans des films, après film, bon, enfin bref.
Bref, voilà. Ouais, c'est très bien, mais alors, niveau poker, là, j'ai l'impression d'avoir régressé, je me suis fait tabasser pendant 3 jours.
Oh, ah, mince.
Oh là là.
Comment tu le vis d'ailleurs, Daniel?
Ah bah pas bien du tout.
Ah ouais, c'est vrai,
ah
ça va.
Ouais, j'ai du mal.
T'accuses le coup là?
Oh ouais.
C'est vrai que tu vas être relou là.
C'est quoi? C'est quoi?
Non, je vais pas être relou, ça n'a rien à voir. Mais
c'est quoi? C'est
ah oh, tous les pas tournois,
de chance,
cash
les...
game. Non, je pense que quand tu prends deux claques, après tu deviens mauvais.
Ouais, tu
j'ai enchaîné.
C'est-à-dire
tu cogites,
tu veux dire?
Ouais, j'étais.
Mais t'as souvent dit toi mentalement des fois t'avais des blocages sur certains trucs.
Moi je l'avoue, je suis devenu hyper mauvais.
Ouais.
Ben on a été rattrapé parce que Mundir a fait 15e.
Ouais, c'est vrai, grosse perf.
Mec,
il fait 15e.
On en parlera tout à l'heure.
15e, c'est énorme là-bas.
Ah, sur 1250 ouais. joueurs qu'il y avait dans le tournoi.
Ouais, oui, d'accord.
C'est une sacrée perf pour lui.
Hein. Ouais.
Je pense pas qu'il ait
fait
un meilleur résultat dans sa vie. Donc
c'est beau bien. Ça.
Il est content, je te le dis.
En termes de gains, c'est quoi?
Sur ce tournoi-là, il a dû prendre. Attends, parce que le 20. Sur ce tournoi-là, peut-être qu'il doit. C'est peur de dire une connerie, mais il doit pas être entre 10 et 15 000.
C'est pas mal, ouais.
Ouais, il va nous ramener une petite bouteille de champagne demain soir, là.
On va lui dire.
Hein?
Hier a eu lieu donc l'avant-dernière journée de Ligue 1, avec pas mal de choses. Alors, il y a notamment d'ailleurs la défaite de Lyon à Strasbourg 3-2, ou la victoire
moi,
de Strasbourg.
Moi, j'aurais dit la victoire de Strasbourg.
Voilà,
contre Lyon.
Je savais que t'allais
ouais,
dire
j'aurais
ça.
J'aurais dit ça plutôt.
Bah, tu sais quoi, justement, on va commencer par ton avis tranché qui concerne notamment d'ailleurs Strasbourg, Pierre.
Okay, oh les gars, de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça.
Ouais, mais enfin moi, j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi.
Juste avant, mon Pierrot, trophée UNFP, Arnaud Valadon y est en ce moment même. Rebonsoir, Arnaud. Ah non, bah, il est reparti, il va revenir.
De toute façon, on connaît les résultats, donc je te les donne à l'avance.
Alors écoute, pour l'instant, je vous dis ce qu'on a. Meilleur espoir de la saison, Kylian Mbappé. Meilleur gardien de Ligue 1 de la saison, Steve Mandanda.
Ouais.
Entraîneur de saison de la saison de Ligue 1, Unai Emery. Meilleur joueur français de l'étranger, N'Golo Kanté.
Kanté.
Voilà, et on attend le meilleur joueur, notamment.
Bah, meilleur joueur, c'est Neymar.
Voilà, c'est Neymar, alors
bon, okay, je te l'annonce.
C'est Neymar.
Voilà.
Ton avis tranché, mon Pierrot?
Eh ben effectivement, comme tu l'as dit avant, ça concerne Strasbourg. Alors pourquoi Strasbourg? Je sais pas, peut-être parce que je suis hier soir, je me fais le Angers-Nantes à Angers et que je pars deux minutes avant la fin du match avec mon fiston qui m'accompagnait et que on met sur le téléphone la fin des le multiplex, la fin des matchs et que j'ai vécu ce but de Liénard, cette fin de match de Strasbourg. Je me suis refait le match d'ailleurs, mais quand on branche l'iPhone en fait, le téléphone 30 secondes plus tard, on voit ce but là, quoi, le but du maintien, la méno qui explose. Alors c'est peut-être aussi parce que moi j'y ai joué à la méno, j'ai pas eu la chance de connaître les mêmes émotions, en tout cas la même positivité dans les émotions.
Pas la même ambiance. Hein.
Alors non, c'est pas qu'il y avait pas d'ambiance, que la méno était déjà belle quand même, sauf que nous on fait une descente de Ligue 1 en Ligue 2. D'ailleurs c'était marrant parce qu'on avait fait aussi une espèce de série comme Strasbourg cette saison, on avait fait 11 matchs en gagné.
Ouais, c'était 11 matchs aussi pareil.
Ouais, voilà, il y avait un truc. Alors moi je me demande si c'était même pas 11 défaites, un truc comme ça de mémoire. Enfin, c'était une série très très noire, on n'arrive pas à se maintenir, et l'année d'après on loupe la montée pour un but à Montpellier. Donc effectivement les émotions, il y en a eu parce que quand tu joues à la méno, t'as forcément des émotions, mais pas avec un dénouement comme ça hier qui était extraordinaire. Et j'ai eu envie de parler de Strasbourg pour revenir à ce qui parfois nous sépare un petit peu avec Daniel, mais c'est vraiment pas pour le titiller encore là-dessus, mais c'est plus parce que pour moi ça a été un exemple là hier d'émotion pour tout un club, pour des supporters qui ont rien lâché cette année là-bas à la Méno. Honnêtement, je me rappelle pas d'un match où la Méno était pas pleine. Alors il y a eu des matchs où c'était encore plus beau, pour avoir été voir la défaite du PSG là-bas en décembre. Enfin voilà, la Méno était magnifique.
Enfin, on peut même remonter aux années Ligue 2 nationale CFA. C'était
ouais,
déjà
c'est,
le cas,
voilà, hein, c'est toujours plein, mais moi je vais me contenter à cette saison. Ouais, ouais. Pour moi, ce but Liénard et cette émotion, c'est pas juste le but du maintien et donc il y a une émotion d'un seul coup, c'est une émotion de toute une année où il y a un club, où il y a des supporters et des joueurs qui se connaissent, là t'as raison, depuis très longtemps. Là je reviendrai un petit peu sur les propos de certains confrères qui pour eux Strasbourg était condamné parce qu'il y avait trop de joueurs de national. À un moment donné, le joueur de national qui est monté en Ligue 2 avec son club, qui est monté en Ligue 1 avec son club, qui a certaines qualités quand même, qui est peut-être pas le meilleur joueur de Ligue 1, on est d'accord, Strasbourg était loin d'être la meilleure équipe de Ligue 1, on est d'accord.
Pas mal de clubs de Ligue 1 qui ont des joueurs de niveau national.
Bah voilà, en plus
mais qui n'y ont jamais joué.
Et ceci dit, tu as une histoire commune avec ce public, tu as une histoire commune ensemble dans le vestiaire, t'as une dynamique, mais t'as plus qu'une dynamique, t'as des joueurs qui se connaissent, t'as quelque chose, et c'est ce qui pour moi te permet de faire la différence dans les moments comme ça. C'est pas juste la patte gauche de Liénard qui est, pour moi c'est peut-être le but de la saison, ce coup franc, ouais, parce qu'il est magnifique, mais c'est pas que ça, c'est juste un symbole, ça, en fait. Finalement il y a tout ce qui va derrière. Je pense que les supporters qui étaient présents à la Méno hier soir vont se rappeler plus longtemps de ce but et de ce maintien que tous les supporters, peut-être certains du PSG ou de Lyon ou de Monaco, qu'auront fait des saisons pour finir deuxième ou troisième de Ligue 1.
Bah, le PSG finit premier en l'occurrence.
Pour accrocher une...
Toi, t'es parisien, t'as joué à Strasbourg aussi, tu le dis, c'est deux clubs auxquels t'es très attaché. Toi, t'as plus vibré cette saison avec Strasbourg qu'avec le Paris Saint-Germain.
En fait, c'est pas question de plus vibrer ou pas, c'est question de laisser certaines équipes et certains supporters de certaines de ces équipes-là pouvoir vibrer sans être effectivement les plus belles équipes au niveau du jeu, au niveau des résultats, toute une saison. Parce que ils vibrent quand même, ces supporters-là. Parce que c'est les supporters de Strasbourg.
Ah ouais, c'est
ils,
marrant,
ils ont eu des moments difficiles
toute l'année, moi. Que c'est pas de gagner les titres ou que c'est pas ça qui reste dans les mémoires, mais c'est que ces genres de matchs. C'est ce que je dis tout le temps, mais vous dites tout le temps
non,
que le plus important,
justement,
c'est les résultats.
Non, mais c'est important, c'est les lignes de palmarès. Quand je te dis résultat, le maintien est un résultat. Tu vois, c'est ça le truc.
Ouais, c'est leur titre, tu veux dire.
Oui, c'est
leur titre à eux.
Et je sais qu'à la Méno, il y a eu des matchs cette saison, mais les joueurs le reconnaissent, Thierry Lauré l'a déjà reconnu, les supporters sont pas idiots et le savent. Il y a eu des moments difficiles ou des matchs galères. Voilà, où il y avait rien. Mais en même temps, ces supporters-là, on l'a jamais lâché. Les joueurs, avec leur talent et leur niveau, ont jamais rien lâché. Et pour moi, c'est une belle preuve que les émotions dans le football peuvent aller sans résultat de ce que la plupart plupart des gens appellent
c'est
résultat
ce que je dis tout le temps.
Non, sans
vous
résultat.
Vous tombez dessus à chaque fois.
Sans résultat
fois,
de ce qu'on appelle
dessus.
Résultat, c'est-à-dire une place européenne,
mais à fois,
des choses
vous
comme ça.
Dessus.
Non,
c'est ce que dit
non.
C'est souvent ce que dit Daniel en ce
mais
moment avec Marseille.
Mais je le dis tout le temps. Je le répète tout le temps, à chaque fois vous me
alors
tombez
moi,
tous les consultants vous me tombez sur la gueule.
La dernière fois qu'on en a parlé,
que les résultats.
La dernière fois qu'on en a parlé, c'était que il fallait avoir des résultats que avec du beau jeu parce que sinon il y avait pas d'émotion.
Mais non.
C'est ce qu'on a
Mais c'est malheureux que tu comprennes ça. Pas pour une équipe comme Strasbourg, qui en plus cette année, mais vachement.
Rappelle-toi, c'est ce que je t'avais dit. On a même pris l'exemple d'équipes justement qui n'étaient pas, Lyon, Monaco, Paris.
Mais tu n'as aucune équipe comme Bordeaux, Saint-Étienne. Aucune équipe qui parvient à faire ce qu'a fait Strasbourg sans mettre du cœur et du jeu.
Bien sûr.
Toute l'année,
bien sûr. Exactement.
C'est pas le bon exemple.
Exactement.
En fait, tu cherches à te défendre avec un mauvais exemple.
Pour moi, c'est l'exemple parfait, justement.
Mais
c'est pour ça, c'est
toutes
toute
les autres équipes dont on parle et sur qui je tapais, qu'est-ce qu'elles ont fait au final? Qu'est-ce qu'a fait Montpellier au final? Qu'est-ce qu'avait, voilà.
Eh ben, Montpellier,
c'est
Montpellier,
un très mauvais exemple,
Montpellier, par exemple.
Montpellier, c'était l'exemple d'ailleurs qui vous divisait vraiment.
Eh ben, Montpellier, par exemple, c'est maintenu facilement. Est-ce que Montpellier, pour toi,
mes exemples, c'était Lille qui avait fait 3e avec Girard.
Il va te poser une question.
On a eu des auditeurs, ils se souvenaient même pas d'un seul match de l'année.
Est-ce que Montpellier, pour toi, cette saison, a une bien meilleure équipe qu'un Lille, qu'un Strasbourg, que des équipes comme ça qui ont joué le maintien à la fin?
Non, mais ça ne m'intéresse même pas de le savoir.
Non, mais c'est pour ça. Ma question, tu la, voilà, tu sais, si je te la pose, c'est que j'ai une raison.
Et qui termine 10e, 16e, 15e, c'est la même chose.
Mais sauf qu'ils se sont pas fait peur comme Strasbourg ou Lille s'est fait peur.
Et que
pour un club, c'est important quand même.
Bah, tu dis, alors, toi, t'es en train de se contredire en 10 minutes, t'as dit tout et son contraire.
Mais non, c'est important quand même. Je me contredis.
Tu sais ce qu'il va te dire? Il va dire, bah, au final, Montpellier sont vite mis à l'abri. Ouais. Ils ont pas forcément des meilleures équipes que Lille.
Voilà.
Mais finalement, t'as eu moins d'émotions parce qu'ils se sont sauvés trop vite.
Ils ont peut-être pas eu l'émotion de Strasbourg sur le dernier match, mais ils ont eu des émotions dans l'année avant que Strasbourg les ait. Par contre, ils en ont eu pendant l'année, Montpellier, sur des victoires, sur des matchs.
Jamais bien de la sûr vie. Que si. Pas comme Strasbourg. Strasbourg, ça fait partie justement des équipes qui cette année a offert. Toujours un, ils ont eu des moments où on en parlait moins et où c'est devenu un petit peu chaud pour eux. On a cru qu'ils allaient redescendre.
Il y avait rien. Difficile.
Mais globalement, l'image qui est ressortie de Strasbourg cette année, c'est cette équipe qui donnait tout, qui jouait avec le cœur,
avec un stade qui continue.
On l'a souligné toute l'année, Pierre. Leur victoire contre le PSG, leur victoire hier, évidemment que c'était un moment incroyable. Tous les gens qui étaient devant le multiplex, je pense, vont se souvenir de ces dernières minutes. Ils s'en souviendront surtout. Parce que le scénar est dingue, parce que aussi, et il faut le dire, ça compte toujours quand c'est un adversaire de renom. Le fait que ce soit Lyon compte énormément dans l'histoire.
Oui, ça rajoute au scénario.
Ça rajoute beaucoup. Le fait que Lyon menait 2-1 et que, mine de rien, dans le maintien de Strasbourg, t'as aussi le supporter de l'OM chez lui, le supporter de Monaco chez lui.
Oui, qui a d'autres émotions par rapport à la défaite de
Strasbourg, qui est pris par l'engouement et qui se dit tiens,
t'as
regarde,
raison, ça rajoute. Mais mon avis n'était pas là-dessus.
À 5 minutes près, ils ont assuré leur deuxième place et puis là ils se retrouvent dans la merde. Ça rajoute du suspense. Et quand il y a du suspense qui concerne une grosse équipe, bah ça concerne un maximum de gens. Donc ça déborde du cadre strasbourgeois et de ce coup franc incroyable de Liénard. Le moment est vrai, était absolument magique. Hier soir, ouais, tu regardes cette fin de match, c'est fou, c'est probablement le match le plus fou d'hier soir, un des moments forts de la saison. Ouais, moi j'ai adoré ça, ouais, c'est vrai, ouais.
Mais final,
pour moi,
d'accord, les
pour
gars,
moi tout ça ne va que dans le sens de ce que je dis à longueur de temps, exactement comme dans 3 jours.
Donc finalement, on doit pas être aussi loin, alors en fait, finalement.
Mais non, mais c'est, en fait,
je pense que c'est tout proche, même.
Ce qui nous différencie, c'est la vision du résultat, ce qu'on appelle le résultat.
Parce que, évidemment, moi, si dans 3 jours, j'entends, après que l'OM, je parle comme si le foot était toujours logique et si le favori gagnait. Mais bon.
Si l'OM perd.
Il y a une probabilité aujourd'hui assez forte pour que l'OM termine 4 et soit finaliste simplement. On va dire que c'est la proba, à eux de déjouer la proba, mais a priori là, ça peut être comme ça. J'attends ceux qui vont dire que finalement l'OM, c'est une saison décevante. J'attends d'entendre avec quel argument ils vont pouvoir avancer pour me dire ça.
Non, et puis parce qu'ils ont joué à fond en plus. Donc il y aura pas de regret.
Cette idée, parce que je le dis depuis des semaines maintenant. À la limite là, aujourd'hui, évidemment, s'ils gagnent l'Europa League, c'est extraordinaire, tant mieux. Hein. Mais
la question
pour moi, d'ores et déjà, leur saison, elle est réussie quoi.
Cette fois, il est bien là, Arnaud Valadon qui est au trophée UNFP. Rebonsoir Arnaud.
Rebonsoir messieurs. Alors on a eu droit aux joueurs de Ligue 2, les distinctions. Le meilleur joueur de Ligue 2, c'est le milieu gauche de Reims, Diego. Voilà, il est meilleur joueur de Ligue 2. Alors il était tout ému parce que dans la salle, il y a Ronaldo, le vrai Ronaldo, le brésilien, il phénoméno. Et c'était son meilleur joueur, c'est le joueur qui l'a fait rêver. Donc il était tout ému, Diego. Et le meilleur gardien de Ligue 2, c'est le portier de Clermont, Paul Bernardoni. Voilà, qui a fait une grosse saison, même si Clermont ne va pas arracher les playoffs. Donc voilà pour cette soirée des trophées UNFP. On rappelle, meilleur espoir Kylian Mbappé, meilleur entraîneur de Ligue 1 c'est Unai Emery, meilleur gardien de Ligue 1 Steve Mandanda, et puis la soirée se poursuit, on attend tout simplement le meilleur joueur de Ligue 1 d'après les petites indiscrétions. Ça se joue entre Neymar, qui est présent, et Edinson Cavani,
qui n'est pas présent.
Edinson Cavani, on l'a pas vu.
Non, il est pas là.
Ça te donne un petit indice ou pas?
un petit peu léger, je pense.
Ah, si ça se trouve, il est dans la coulisse, il va faire une entrée fracassante et tout, il va aller chercher le trophée.
Et tire un pénalty.
C'est bon ça. Merci beaucoup Arnaud. Tu, on te retrouve tout à l'heure avec donc le nom du meilleur joueur de saison de l'année, de la saison de Ligue 1 au trophée UNFP. On accueille Damien sur ton avis tranché, mon cher cousin, mon cher Pierre Ducrot. Salut Damien, bienvenue dans l'After.
Bonsoir l'After, bonsoir à tous.
Bonsoir Damien.
Alors Damien, est-ce que tu es d'accord avec Pierre Ducrot et son avis tranché?
Non, pas du tout. Enfin, pour moi, les émotions, c'est aussi propre à son club. Moi, supporter du PSG depuis que je suis tout petit, et ben, je suis désolé. J'ai vécu des années de galère. Je me rappelle que j'avais vibré énormément lors des deux buts d'Amara Diané. J'avais sauté quand on avait gagné ce match à Sochaux et qu'on s'était maintenu en Ligue 1. Je me rappelle que j'avais vécu des émotions extraordinaires quand on a battu Rosenborg 7-2 au Parc des Princes.
Ah oui, donc t'es d'accord, Damien.
C'est ce qu'il disait. Il disait que les petits clubs donnaient plus d'émotions que les gros clubs. Mais
non, alors ça, tu sais quoi, je vais balancer le titre du Saint-Étienne. J'étais pas du tout d'accord avec ça. Je vais balancer Jérôme. C'est pas vraiment ça. C'est le cœur de la vie, en fait, c'est que peu importe la qualité de ton jeu ou la qualité de tes résultats sur toute la saison qui t'emmènerait vers le haut d'une Ligue 1, etc. Tu peux avoir les mêmes émotions, voire des fois de plus grosses émotions, même quand t'es en bas et que t'as fait une saison moyenne. Voilà.
Ah, mais c'est vrai. Non, mais les émotions du football sont propres à chaque personne et à sa manière de vivre le football et de supporter son équipe. Alors c'est sûr que quand on voit, par exemple, aujourd'hui les titres du PSG avec moins de ferveur ou autre, parce que forcément il y a des supporters qui sont là que depuis les années qatari, faut pas se le cacher. Et ben oui, ils vivent ça avec moins d'émotions peut-être que moi qui supporte le club depuis des années et qui a vécu des moments de galère. Et les émotions au football, elles sont propres et on peut vivre des émotions très très fortes au plus bas niveau du district avec un simple titre de champion en 6e division. On vivra des émotions parce qu'on a gagné le titre avec ses copains et autres. Donc non, ouais, le football c'est vraiment un sport qui donne beaucoup d'émotions et c'est magnifique de voir ce qui s'est passé à Strasbourg hier, le maintien, même si je pense qu'il l'aura obtenu la semaine prochaine, par exemple. C'est magnifique de voir.
Je pense qu'ils sont contents que ce soit passé comme ça.
Je pense aussi.
Il y a un truc qui est très intéressant et finalement ça rejoint le débat qu'on avait eu là, mais qu'on a eu d'ailleurs ces dernières semaines avec toi notamment Daniel. Mais finalement, ce que tu viens de le dire Damien, que quel que soit le résultat, que ce soit le maintien, que ce soit d'ailleurs la descente, que ce soit un trophée, est-ce que le plus important c'est pas le résultat au final? Toi Daniel, tu dis souvent ce qui donne le plus d'émotion, c'est le jeu, c'est la façon dont tu vas jouer. Au final, on se rend compte que quand t'es supporter, ce qui donne le plus d'émotion, c'est le résultat, quel qu'il soit.
Si hier Lyon égalise, a le temps d'égaliser ou voire même de mettre un quatrième but et Strasbourg perd derrière, effectivement les émotions sont plus les mêmes.
Je sais pas, je pose la question.
Mais Strasbourg, ils ont joué cette année, ils allaient de l'avant, ça donnait, il y avait du cœur, il y avait de l'envie. C'est ça quand on dit quand on parle de jeu, ça n'est pas uniquement développer un jeu en plus après quel genre de jeu. Arrêtez, putain, essayez de comprendre, bordel, c'est fou quoi.
Mais si, excuse-moi, tu schématises, tu poses un truc, on a le droit de te poser des questions.
Mais non, mais j'en ai parlé, on en a parlé mille fois,
bah, excuse-moi,
tu sais très bien.
Alors,
tu sais très bien comment c'est.
Strasbourg,
ils ont pas gagné le match en jouant bourrin contre Lyon. Le match est pas excellent.
Mais ils jouent contre Lyon, ils gagnent 3-2. Ça,
oui, le résultat, c'est non, mais le résultat est magnifique, mais le match est pas excellent quand tu regardes le match.
Bon, écoutez, ok, très bien.
Non, mais Daniel, moi je suis d'accord avec toi et je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire,
on dit tous la même chose, le pire, c'est ça.
Quand on voit une équipe qui va de l'avant, qui essaye de jouer, qui essaye au moins, même si c'est pas parfait, s'il y a des erreurs techniques, mais on voit que dans les intentions, dans la volonté de jouer, c'est d'aller vers l'avant, de donner. Alors quand on voit des équipes qui restent à 12 derrière et qui font pas l'effort d'attaquer, comme par exemple Toulouse cette année, qui va peut-être se sauver, mais qui a
prenez l'exemple plutôt des équipes comme ça pour développer la théorie.
Alors voilà,
elles sont punies, ces équipes. Voilà, ça c'est bien. Ça.
Et Toulouse oui. va peut-être se sauver. Alors,
Damien,
ça joue pas dégueu.
Daniel, je suis d'accord avec vous. Si on prend Toulouse, effectivement, c'est le parfait exemple pour votre théorie. Si on prend Montpellier, c'est une équipe qui a soi-disant tout bétonné, mais qui s'est sauvée tôt et qui est le contre-exemple parfait pour moi.
Ouais, mais je sais pas s'ils ont vécu des émotions, par exemple, les supporters.
Moi, je pense qu'ils ont. Je suis pas sûr.
Moi, je pense qu'ils sont fait chier quand même.
Déjà, en plus, la fois où on en avait parlé, Daniel, il y avait une différence. Moi, je mettais je voyais ça d'un œil différent quand t'es supporter, effectivement, ou comme nous, consultant, journaliste, ou quand tu es acteur, c'est-à-dire joueur et entraîneur. Où là, il te faut des résultats. Là, tes émotions, très clairement, pour moi, elles passent aussi par le résultat, parce qu'à un moment donné, quand t'es 18e toute la saison et que tu descends à la fin de saison, et pour l'avoir vécu, l'émotion, si t'en as eu pendant la saison mais que tu descends, je peux te dire que tu t'en as pas grand chose à faire, quoi.
Ah
Le mot de la fin, Damien, vas-y.
Non, non, mais franchement, la théorie, elle est simple. C'est que les émotions sont vraiment propres à chacun.
Exactement.
Et que dans la saison, on en a tout au long de la saison. Mais c'est vrai que forcément, les moments de descente, de montée, de titre, de fin de saison allaitante, c'est toujours plus intéressant à vivre. Et c'est ce qui va procurer le plus d'émotions. C'est vrai quand on se retrouve comme Nantes, Montpellier ou d'autres en milieu de tableau, en n'ayant pas produit notre jeu durant l'année, c'est compliqué, même quand on est supporter. Des fois, on voit que les Nantais, les supporters nantais, ils ont été très déçus cette année. Ils l'ont fait savoir. Ils ont fait preuve de leur mécontentement. Et on voit que justement, ils ont eu du mal à trouver ces émotions qui les fait vibrer pour leur club, quoi.
Ah, c'est vrai.
Merci Damien d'avoir été avec nous en tout cas.
Pas de soucis, bonne soirée.
À très bientôt Damien. Dans quelques instants, la vie tranchée de Daniel Riolo, il concerne le Paris Saint-Germain. Je vous rappelle quand même pour l'instant les trophées UNFP. Arnaud Valadon est sur place, meilleur espoir de la saison de Ligue 1, Kylian Mbappé le Parisien. Un Marseillais a été élu meilleur gardien de la saison, c'est Steve Mandanda. Meilleur entraîneur Unai Emery, meilleur français de l'étranger N'Golo Kanté. Et on attend le meilleur joueur de la saison de Ligue 1 selon Daniel Riolo. Ce sera Neymar.
Il y a un match de dingue en Liga en ce moment là. 5-4 Levante Barça.
Mais j'ai une question.
C'est quoi ça?
Non, je t'ai dit Neymar.
Excuse-moi de te faire chier ce soir Daniel. Vraiment, je voulais pas. Visiblement ton tournoi à Marrakech s'est mal passé. Ton tournoi à Marrakech s'est très mal passé Daniel visiblement.
Tu m'as pas demandé qui était le meilleur joueur de Liga, j'ai dit Neymar.
Bah si, justement, j'allais dire selon tes informations, c'est
Neymar.
Voilà.
Mais j'ai et les féminines ont été récompensées au trophée UNFP aussi.
Alors vas-y.
Ben je sais pas, je crois que c'est Marozan. Non, je crois que c'est je suis pas journaliste, je suis consultant ici. Le travail du journaliste, c'est le vôtre, monsieur Villas, d'accord? Marozan, meilleure joueuse, et Marika Toto du PSG, meilleur espoir. Voilà.
Allez, à tout de suite pour la suite de l'after.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Avec Daniel Riolo, avec Pierre Ducrot également, on part retrouver Arnaud Valadon, les trophées UNFP, les récompenses continuent de tomber, Arnaud. Non, t'es pas là, Arnaud Valadon? Est-il là?
Si, je suis là, pardon. Ah, monsieur, tu es là. Pardon. Vous parliez des filles, j'entendais Pierre Ducrot, eh bien on va donner les trophées des filles, puisque c'est tombé la révélation de la saison. C'est la joueuse du PSG, Marie-Antoinette Katoto, et la meilleure joueuse de la saison, elle est lyonnaise, c'est la star du championnat, Jennifer Marozan, donc voilà pour les dames. Et là, ça vient de tomber, le plus beau but de Ligue 1. Il y avait plusieurs nominés, il y avait Benjamin Janot contre le Paris Saint-Germain, Nabil Fekir qui avait mis ce but de pratiquement 40-50 mètres. Il y avait également Giovanni Lo Celso, le petit lob, c'était sur Mike Maignan. Kurzawa sur le corner de Neymar au mois d'août. Et finalement, le gagnant, c'est Malcolm, effectivement, avec cette frappe lumineuse, Dijon-Bordeaux. Et Bordelais s'était d'ailleurs incliné, je crois, dans cette rencontre. Une frappe somptueuse de 35 mètres qui avait nettoyé la lucarne de Benjamin René. Donc Malcolm qui a le trophée du plus beau but de la saison.
Ouais.
Merci Arnaud.
Ceux qui étaient nommés étaient vraiment beaux. Le but de Fekir, moi je le trouve absolument dingue.
Ouais, Lienard a marqué trop tard.
C'est toujours difficile. Ouais, Lienard c'était trop tard. Non, mais c'est toujours difficile. Et après il y a plein de choses qui peuvent être belles sur un but. Voilà, ça peut être
tellement subjectif en plus après.
Non, mais voilà, ça peut être une frappe, ça peut être un contrôle qui t'amène à frapper qui est magnifique. Enfin, donc ça peut être une action collective qui est magnifique. Bon, c'est difficile de.
On vous rappelle qu'après l'after, il y aura le RMC Poker Show, que Daniel revient de Marrakech, où il a participé au Sismix, le tournoi où il a pas été bon, c'est pour ça qu'il est très très chiant ce soir. Mais tu n'as pas tout perdu, Daniel, là-bas.
Il
paraît que t'as joué au tennis, contre un certain Christophe Dugarry.
Oh, mais on va pas parler de ça.
Ah bah non, on va pas en parler, on va voir sur BFM Sport. Pour celui qui a pas BFM Sport, là, c'est relou.
Mais pourquoi? C'est des images privées?
Ah bah moi je sais pas, on m'a dit, t'envoies, j'en sais rien, moi je suis pas au courant, mais. Non, mais c'est Christophe Dugarry, regarde. Hop. Ok, bon ça. Et ouais, Christophe Dugarry, qui a gagné, Daniel?
Non, on n'en parle pas.
Ah, t'as perdu, visiblement, encore ça aussi.
Gagné, c'est pas important.
Voilà, Daniel Riolo qui joue au tennis à Marrakech.
Par contre, je comprends pas ton physique. Une semaine sur deux, tu arrives claqué, et la semaine suivante, tu joues.
Mais je joue tout le temps, peu importe. Même si
c'est beau, ça. Mmh, il y a deux semaines, t'avais le tendon de l'Achille claqué, quoi.
C'est pas grave. Je jouais tout le temps.
Peur de rien. Faut pas se reposer.
Non, mais je me demande ce qu'il prend, surtout.
La vie tranchée de Daniel Riolo.
Le beau, quand même, un petit peu plus costaud. Le petit agneau, c'est vraiment, le petit beau, il bouge un peu plus, même si il reste tendre.
Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, Daniel. Ton avis tranché concerne le Paris Saint-Germain. Et selon toi, le Paris Saint-Germain, n'a pas tout perdu.
Non, ils n'ont pas tout raté, je voulais dire. Je pense quand même que cette année, dans l'after, moi, d'autres, quand il a fallu être critique et dire quand les choses n'allaient pas, on ne s'est pas caché, on a dit ce qu'il fallait. Mais à un moment, je trouve quand même qu'il faut un petit peu de un peu de justesse, un petit peu de mesure aussi quoi. Ces derniers temps, c'est quand même très très dur tout ce que j'entends. Alors je vais pas faire de généralité et dire tout le monde dit que je vais pas me réfugier derrière cette phrase, mais quand même quoi, là on a l'impression que le PSG a complètement raté sa saison, alors que bon, paradoxalement le monde du foot ce soir, dans ces trophées UNFP que j'ai jamais moi trouvé absolument dingue, mais visiblement ils vont quand même rafler très logiquement à peu près toutes les récompenses, non sans que un animateur télé vienne donner la leçon au moment de la remise des prix là, puisqu'on invite des gens là pour en mettre les prix là, donc c'est ce que t'étais en train de regarder là.
Ouais, je cherchais apparemment
Kretschmann là, bon, il a donné une petite leçon de ce qu'il fallait faire quand on était au PSG. Bref, hier ils perdent un match.
C'est beau, ça.
Ils perdent un match, oui bah ça va, ils sont champions avec 20 points d'avance, j'entends il faut qu'ils jouent le jeu et tout, ouais, mais même quand t'as fait du sport, même au plus bas de tous les niveaux, c'est compliqué, on le sait, quand t'as pas l'enjeu jeu comme ça. Le Bayern hier a perdu contre Stuttgart 4-1. Voilà, je sais pas si toute l'Allemagne est tombée sur eux. Le Barça a été mené 5-1. Je sais pas comment on va finir le match là. Ils sont champions, donc bon ben, puisque certains, parce que ce long week-end de l'Ascension a démarré avec les propos d'un confrère absolument grotesque et ridicule, comme quoi le PSG avant le Qatar était un club de rigolo.
Il a la palme.
Je pense que lui, il a décroché la palme de la connerie intégrale. Donc, bah, si le PSG a raté sa saison, le Barça a dû la rater aussi, puisqu'ils ne sont que champions. On parle même pas de la Juve. Bon, le Barça, ils sont en Liga, championnat.
Ouais, à part.
Au combien supérieur. Donc, ok, on va les garder, eux. Mais, mais la Juve est 7e titre de suite. Oh là là, Dieu sait que c'est une catastrophe et que en Italie tout le monde dit que leur saison est absolument ridicule. Le Bayern, on n'en parle même pas. Emery, le fracassage permanent. Bon, ok, très bien. Neymar, qui doit absolument s'en aller. On veut le pousser dehors tellement on en fait des tonnes à reprendre toutes les absurdités que peut écrire Marca chaque jour. Il faut qu'on aille derrière. Il faut qu'on relaie toutes ces conneries sans arrêt.
Qui viennent toujours du même endroit d'ailleurs.
Voilà. Et puis après on dit, mais ouais, mais là-bas, après tout, c'est normal.
Oui, c'est le jeu.
Mais ici,
non, mais que ce soit repris chez nous.
Mais ça y est, t'es d'accord avec Nasser lorsqu'il dit hier, Nasser Al Khelaifi, il dit la question lui est reposée hier après la défaite face au Stade Rennais, on lui dit bon, il y a des rumeurs encore en Espagne qui annoncent un départ, et il répond, bah, vous êtes la presse, c'est la presse espagnole, ils font leur boulot, vous êtes la presse française, en gros vous devriez défendre les clubs français. T'es d'accord avec ça, toi? Après, il assure qu'il restera.
C'est biaisé dès le départ, à partir du moment où Neymar te dit lui-même une ou deux fois que lui ne dit rien à la presse et que ça vient pas de lui et que ça continue, c'est que les gens ont vu que ça continue.
Lui il dit rien, mais le truc c'est que dit répond aux rumeurs. Mais si tu te mets à répondre aux rumeurs, de toute façon la façon dont il répondra
sera interprétée.
Mais si oui. ça empêche pas qu'il va partir.
Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut pas relayer ce qui sort ailleurs, Daniel. C'est ça que je veux dire.
Mais t'es pas. Mais attends, excuse-moi, Nico, bordel.
Non, je te dis pas que.
T'es journaliste.
Oui, justement.
Bon, est-ce qu'une rumeur, tu dois la relayer?
Mais moi,
non,
moi,
une info.
Moi, j'ose espérer que les gars de Marca, ils font pas que des rumeurs. Mais
aujourd'hui, la preuve, sur Neymar, va rester.
Sur Neymar,
puisque Neymar va rester. En fait, Marca, ils vont avoir dit des conneries pendant 6 mois. Et donc, bah, y a rien. Ils continueront. Il y aura pas de problème. Donc aujourd'hui, notre métier, c'est de dire, pour te couvrir d'avoir relayé une rumeur, Marca dit que, parce qu'en fait, après, on le sait, il faut pas le cacher, c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui dans les médias, il faut que tous les sites fassent des clics.
Voilà.
Des fois, ça marche à l'inverse. C'est-à-dire, un tel va sortir une info que toi, t'as pas forcément.
On est obligé.
Et tu vas dire, nous, on a dit qu'eux aussi. Voilà. Hein,
est-ce qu'on est obligé d'approuver tout ce système-là?
Le reçu, ça.
Moi, pour le coup, ça me plaît pas. Donc
non, mais la course du scoop, on est d'accord, le buzz, etc., ça devient chiant dans ce boulot. Mais ça, on est d'accord.
Voilà.
On est complètement d'accord que l'information a changé. Il n'y a jamais eu autant de support, il n'y a jamais eu autant de, finalement, de aussi peu de gens, qui vont chercher eux-mêmes leurs infos.
Chacun cherche à dire rien. Ok, Neymar, il pose avec le maillot du PSG. Non, c'est pas assez. Il peut quand même s'en aller. Bah, ok, on verra à ce moment-là. Mais les mecs, soit, réellement, c'est comme au moment où il est venu. T'as un mec qui, clairement, a l'info, la donne. Et après, on dit, ah, tiens, toi, t'avais bien. Mais tous les mecs, même parmi les confrères, il viendra jamais, machin. Examen de conscience, un peu.
Oh non.
Vous allez vous regarder dans une glace, toutes les conneries que vous avez dit sur le PSG toute l'année?
Non, ça continue même. Le même mec qui peut te dire, si Mbappé vient à Paris, je me coupe les trucs parce que moi, j'ai des infos béton.
Ouais.
Le même mec, c'est vrai, le même mec, un an après, te dit, moi, je vous dis que Neymar, il va partir au Real parce que il y a du marketing, il y a du,
on peut tous se tromper, on s'est tous déjà trompés, il faut, mais au moins,
bien sûr,
viens juste dire quelque chose, quoi.
Non, et puis,
mais continue pas.
Et puis, tu te trompes pas sur des choses que tu veux affirmer alors que tu n'en sais rien. C'est pas ça. Tu peux te tromper sur des analyses de match, sur des analyses de, voilà, des trucs un peu plus,
la vie va continuer pour le PSG, ils vont redémarrer une saison. C'est ça qui est bien avec le football, hein, c'est que au drame succède le nouvel espoir, hein, puisque tout le temps tout est vu sous le prisme de la dramaturgie. Bon, ben le PSG qui visiblement a fait une saison dramatique aux yeux de certains, ils n'ont gagné que les titres nationaux comme la Juve et le Barça et le Bayern. Donc ils vont repartir et puis une nouvelle histoire va s'écrire. Mais très bien, cette année on a eu des belles histoires. Celle de l'OM, on en a eu des moins bonnes, des moyennes, on a eu la belle histoire de Strasbourg, voilà, chaque saison propose ce genre de choses. Lire, et c'était ça vraiment mon ami tranché, que le PSG a tout raté, et franchement en ce moment, si vous lisez les papiers dans certains journaux...
Tain, moi je suis bien content de pas tout lire, tu vois, justement.
On est au-delà...
Non mais c'est ce que j'ai déjà plus.
On est au-delà... qu'on vient de pas me dire, tu défends le PSG. Enfin, quand il a fallu les attaquer cette année, j'étais un des plus durs, quoi. Mais je pense qu'il s'agit même pas d'être juste ou pas, ou d'être dur ou pas dur. Il faut juste être, un petit peu
Daniel,
correct, juste
objectif,
analyser les trucs.
Mais,
quoi,
mais Daniel, on en revient à un truc
là,
parce que
moi, en ce moment, ce que je dis, mais on est au-delà de la haine, quoi. Il y a
Je sais pas si c'est de la haine.
Il y a des règlements de compte.
Alors
parce
voilà,
que t'as pas
c'est là
obtenu,
où j'allais en venir.
T'as pas obtenu tes interviews au début de la saison.
Il y a pas que ça, Daniel.
Il y a
aussi,
beaucoup de choses.
Non, mais aussi. Alors, et c'est vrai quand tu dis tout à l'heure, ça nous arrive aussi de sortir des conneries parfois, que ce soit des infos mercato ou des indiscrétions. Bref, il y a aussi une certaine forme de manipulation. On sait notamment qu'au Paris Saint-Germain, en interne, tout se passe pas très bien. Donc il y a certaines personnes qui balancent un certain nombre d'informations qui sont relayées par des personnes de confiance. Ça, ça fonctionne comme ça aussi. Hein.
Je me demande si je suis pas celui qui a le plus tapé sur la communication du club. Et on a vu d'ailleurs, c'est depuis une semaine, à quel point le club envoyait à droite à gauche des joueurs. J'ai eu interview de Marquinhos dans le Figaro, interview.
C'était aussi FC ce soir d'ailleurs.
Il y avait pas mal de gens du PSG qui ont parlé à droite à gauche. Alors on va me dire, toi aussi Emery, désolé, je suis pas passé pour le PSG pour l'avoir, pardon. Donc voilà. Donc effectivement, il y a des entreprises de ils ont envie de parler. Moi, je pense que si tout au long de l'année, de temps en temps, t'avais un ou deux mecs qui venaient un petit peu remettre les choses au clair, et quitte à être même un peu offensif pour remettre deux trois personnes à leur place et pour les éviter de continuer à dire des conneries et à être à ce point anti-PSG, je pense que ce serait une stratégie un petit peu plus payante. Parfois il faut être un peu offensif et arrêter de se laisser marcher sur les pieds comme ça.
Je suis pas sûr que ça changerait grand chose, moi.
J'ai envie de croire qu'au moins on peut essayer quelque chose de nouveau, tu vois. Parce que pour l'instant, ça n'a pas marché.
J'espère
comme
que t'as raison, mais je suis pas sûr.
Ça n'a pas marché, donc il faudra peut-être tenter autre chose.
Tant que t'auras des conflits d'intérêts et des gens qui ont,
Mon métier, c'était de partir en guerre contre un mec qui veut pas me donner une interview, mais bon.
Voici avec ça.
Après. Il y en a d'autres pour qui c'est.
Je pense que les enjeux vont au-delà de simples demandes d'interview qui sont refusées.
Il y a aussi juste avec le PSG, ça fait exister certaines personnes. Voilà, quand tu racontes n'importe quoi, n'importe
les
comment,
gars,
ça te fait exister quelques instants.
L'équipe type de la saison des trophées UNFP vient de tomber. Arnaud Valadon.
Ah oui, c'est une belle équipe. Alors dans les buts, c'est le meilleur gardien. Vas-y, Steve Mandanda.
En défense,
la charnière, Marquinhos, Thiago Silva, 100% parisienne. On peut rajouter le latéral droit, c'est Daniel Vess. À gauche, on trouve un Lyonnais, Ferland Mendy. Milieu à trois, Marco Verratti, Luis Gustavo, Nabil Fekir. Et le trio devant, 100% parisien, Mbappé, Cavani, Neymar.
Je crois qu'à l'exception de l'arrière-gauche, c'est mon équipe type de l'année que j'avais donné.
T'avais mis qui à gauche, toi?
T'avais mis Alves à droite?
Ouais. J'ai mis à gauche et je sais plus. Probablement j'avais mis ça.
Voilà, un Marseillais du coup, Luis Gustavo dedans.
Et je l'avais mis. J'avais mal dessiné parce qu'il faut mettre Luis Gustavo en 6.
Ouais.
Et j'avais mis ça comme ça.
Fekir,
ouais.
Je suis
exactement
pas sûr.
Si je l'avais mis, moi.
Si.
J'avais mis.
Non, mais pas sûr que tu l'avais pas mis ou pas, mais que je l'aurais mis, je sais pas.
Si, j'avais mis exactement l'équipe, sauf l'arrière gauche comme ça. Ouais. Voilà.
Bon, c'est une équipe qui a de la gueule.
Ouais. Bon, en plus, c'est une équipe qui joue. Parce que généralement, quand on met ce genre d'équipe comme ça.
T'as mis qui à droite, toi, Pierre?
Bah, y a pas. Franchement,
toi-même dis Sakai, il fait une belle saison, Sakai, hein, c'est vrai.
Ouais, c'est pas faux.
Oui, il fait une très belle saison, mais Dani Alves, ça reste au-dessus. Dani Alves, il fait pas une mauvaise saison.
Il fait pas une très bonne saison.
Ouais, il fait pas non plus une excellente saison, moi, je trouve, honnêtement. Ouais, si Sakai, après, à part Sakai.
Si bah, c'est quoi, non. Cogité, on y reviendra tout à l'heure, de toute façon, sur l'équipe
ouais,
de
la saison. Il n'y a pas des masses
non plus. Non, il n'y a pas...
On va accueillir Johan, supporter du Paris Saint-Germain, qui nous a appelé au 32-16 pour revenir sur l'avis tranché de Daniel Riolo. Salut Johan.
Bonjour à tout le monde, bonsoir à tous les auditeurs.
Salut Johan.
Salut.
Alors Johan,
salut.
Est-ce que tu penses comme Daniel que tout n'est pas raté dans la saison du Paris Saint-Germain?
Ouais, c'était même ironique, hein, c'est oui, quand sûr, je disais tout n'est pas raté, c'est un peu qu'on arrête de taper dessus surtout.
Ouais. Ouais, bon, moi je suis relativement d'accord avec Daniel en effet. On a tendance à... Alors c'est vrai que ça, on banalise un peu trop les résultats du club, le sérieux de l'équipe. Donc là, c'est sûr que sur la fin de saison, sur les derniers matchs, les mecs, ils sont en vacances, puis ils ont tout le monde à la Coupe du Monde dans la tête. Donc effectivement, ils jouent sur une jambe seulement. Mais globalement, on peut quand même... voilà, le championnat, ça a été bouclé correctement. On a mis un paquet de raclés quand même cette année. Hein, je pense en particulier à Dijon et puis à Monaco. Donc ce qui n'était pas forcément arrivé toutes les années. Et puis après, évidemment, si on regarde la saison de Paris par la lorgnette de... en termes de résultats, hein, je parle par la lorgnette de la Ligue des Champions, au final, on se fait sortir par le mec qui est en finale et qui est favori de la finale. Donc, il n'y a pas non plus... on n'a pas pris 5-0 et 5-0, donc... globalement,
non, mais même Johan, même si tu veux considérer, parce que au-delà du fait que, comme tu dis, d'accord, c'est le Real, mais c'est un Real qui, en plus, à ce moment-là, est pas forcément absolument imprenable, ou à la limite, même peu importe s'il est imprenable, il lui manque des joueurs, il te manque des joueurs à toi aussi. C'est juste, ok, ne l'effaçons pas. Gardons la cicatrice, surtout du match retour, l'attitude très négative de l'équipe.
La manière.
Ok, mais bien sûr, mais qui veut effacer ça? Personne ne veut effacer ça. Mais dans une saison, bah ouais, t'as un point noir qui est celui-là. À côté de ça, t'as une saison qui est rondement menée. Certes, on le sait, avec des moyens qui permettent d'avoir une grosse marge sur la Ligue 1, mais je crois pas que... Quoi qu'il en soit, ça mérite le tableau qui pour beaucoup est 80% négatif. Non, c'est une saison
Tiens, Yohan, juste avant d'écouter ta réponse,
ni décevante quoi.
Juste avant d'écouter ta réponse, Yohan, on va aller retrouver Arnaud Valadon. Le trophée du meilleur joueur de Ligue 1 de la saison est en train d'être annoncé au trophée UNFP, Arnaud.
Qui de Cavani, Neymar, Mbappé ou Thauvin? La surprise est grande. Daniel avait vu juste. C'est Neymar qui est donc élu meilleur joueur de Ligue 1. Voilà. Et c'est Ronaldo qui a annoncé le nom de Neymar. Donc voilà, deux stars brésiliennes. Peut-être les deux meilleurs joueurs brésiliens de ces 20 dernières années. Donc qui sont réunis ici.
De toute façon, quand
donc,
t'as Cavani qui est pas là, t'as Neymar qui est là et t'as Ronaldo en invité d'honneur.
Ouais. Il y a moyen que ce soit un brésilien qui joue au Paris Saint-Germain.
Au niveau indice.
Hein? Voilà. On est pas mal.
Tiens, ouais. On vous pose d'ores et déjà la question. On vous attend au 32-16 pour y répondre. Est-ce qu'il mérite son trophée de meilleur joueur de la saison? Parce que finalement, il a été absent à un long moment, comme notre ami Neymar. Johan, vas-y, reprends. Je t'en prie, Johan. Pardon.
Ouais. Si jamais on doit critiquer la saison de Paris, c'est essentiellement autour des du staff du club, quoi, de la gestion de la communication, de la gestion par rapport à certains joueurs. Et effectivement, là-dessus, on a du mal à discerner une progression. Et c'est un peu ça qui est inquiétant. Je pense au cas de Verratti en particulier. Qui
c'est absolument d'accord avec toi. Moi, c'est plutôt là qu'il faut chercher la progression.
Ouais. Et je dirais même, pour pousser le raisonnement, par rapport à Emery, par exemple, qui est un mec qui était venu pour mettre son 4-5-1 et tout. On a bien vu qu'à l'intersaison, ils lui ont mis Neymar et Mbappé. Ce qui fait que son 4-5-1, il pouvait l'oublier. Et là, rétrospectivement, on se dit pourquoi ils ont pris un mec pour le faire venir avec un schéma de jeu, machin, pour lui finalement... lui imposer, entre guillemets, des joueurs, alors qu'ils sont des joueurs de très grande qualité, évidemment, mais qui vont à l'inverse de ce que lui, il avait comme idée. Et là, c'est vrai qu'on peut se poser la question de se dire quand est-ce qu'ils vont enfin faire les choses.
Quelle est la cohérence, ouais.
Voilà. Donc là-dessus, ouais, on est un peu... on attend, et là, normalement, là, si c'était le petit Allemand, là, Tourelle, là, où je sais pas comment on dit...
Tourelle, ouais.
Tourelle. Je me dis, peut-être, enfin, ils ont trouvé le bon profil, c'est-à-dire un entraîneur qui n'a rien gagné, et qui sera de toute façon, de fait, en dessous des gros joueurs. Et au moins comme ça, il fera juste son boulot de technicien, et peut-être que
Ça marchera quand le mec dira « on fait comme je dis, ou sinon je me casse ». Ce que Emery n'a pas su faire.
Voilà, peut-être, je sais pas. Moi, ou peut-être l'inverse, Daniel. Moi, je me dis peut-être qu'un mec qui accepte tout, et qui se dit « on me donne un jeu de cartes, et c'est à moi de les poser correctement ». Voilà, peut-être que
ça c'est compliqué, Johan, parce que c'est un vestiaire où t'as plusieurs joueurs qui sont capables de vouloir exiger des choses d'un coach qui n'arrivera pas à s'imposer, et ça va forcément créer à un moment donné des avis différents entre joueurs. Non, moi je pense à l'inverse. Je suis d'accord avec toi sur le fait que le Paris Saint-Germain doit absolument progresser au niveau de l'institution, au niveau de la hiérarchie, de l'autorité. Mais pour moi, un peu comme Daniel, c'est que ça marchera le jour où il y aura non seulement un coach qui s'impose, mais un coach qui a une autorité au-dessus de lui, qui impose aux joueurs d'écouter le coach.
On remercie Johan qui nous a appelé au 32-16. Et Johan, ne raccroche pas Johan. Deux places de ciné pour toi pour aller voir Death Wish, du pur Bruce Willis.
Au niveau de son vestiaire aussi. Parce que si dans le vestiaire, tu n'as qu'une domination des Brésiliens et qu'on en fait venir d'autres, je pense que ce sera pas bon non plus pour le club.
Hein. Oui, il va falloir que le mercato là soit bon, soit intelligent.
Bien sûr, sachez que c'est officiel également.
Il faut doser les choses. Ouais, ouais. Parce qu'un vestiaire grande dominante et brésilienne, dirigé par un Allemand, il peut y avoir des soucis
ça,
aussi.
Ça, hein. Sur le plan sportif aussi, enfin sur le plan purement terrain, il va falloir aussi.
La Juve est championne d'Italie, on y reviendra dans quelques instants également avec Simone Rovera. C'est pas une surprise. C'est officiel.
Ouais.
Et puis, mon avis tranché également. Dans quelques instants, on sera également avec Philippe Auclair. Il y aura les questions de l'after. On va vous les poser. On vous attend 32-16. Il y aura du Lille, il y aura du Marseille, il y aura du Bordeaux un petit peu également. Et puis, on sera avec Philippe Auclair et Simone Rovera. On vous dit à tout de suite sur le hashtag RMC Live et au 32-16 avec Pierre Ducrot et Daniel Riolo.
RMC, le super football show. L'after foot, Nicolas Villas.
Avec Pierre Ducrot, avec Daniel Riolo, avec vous également sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Bien entendu, on est ensemble jusqu'à minuit. Vous avez eu l'avis tranché de Pierre Ducrot, l'avis tranché de Daniel Riolo. Je vais vous donner le mien. Allez. Alors Mathieu, on va pas se mentir. Hein. Baiser en Ligue 2. Alors c'est étonnant pour nous. Allez, bah, c'est quoi, ça date d'il y a une heure, même pas.
Oui,
avec Mathieu
dire,
Chabert.
C'est très
précis. Béziers sera en Ligue 2 la saison prochaine. On est avec Mathieu Chabert, l'entraîneur de Béziers, donc qui monte du National en Ligue 2. On est avec Steph Massala également, finaliste de la Coupe de France avec les Herbiers, qui a perdu face à Béziers d'ailleurs cette semaine et qui sera en National 2 la saison prochaine. Moi, je vais vous parler du Stade Rennais. Alors, on évoquait le Paris Saint-Germain qui a perdu face à Rennes hier. Moi, je pense que Rennes est à un tournant de son histoire. On a souvent dit que Rennes n'arrivait pas à franchir cette fameuse marche. On rappelle que Rennes est cinquième, que Rennes peut égaler un record de points sur ces dernières saisons. Mais c'est même pas tant l'aspect, moi, statistique. Qui m'intéresse, c'est ce club, il a tout. Il y a un actionnaire qui a du blé, il y a un public, il y a une histoire, il y a une agglomération, il y a une région, il y a une vraie identité derrière ce club. On sait qu'en France, souvent, les clubs ont beaucoup de mal à se construire une image, une identité, une communication d'une façon globale qui est forte. À Rennes, il y a ça. Ils ont souvent tendance à en jouer un petit peu, voilà, avec Hermini qui est la mascotte, avec ses maillots, avec le drapeau de la Bretagne et les Hermines qui sont reprises dessus aussi. Mais pour le coup, ils jouent beaucoup là-dessus.
On la Tour Eiffel sur le maillot.
Exactement.
Du PSG.
Ils ont un vrai centre de formation et également les Rennais. Mais alors c'est vrai qu'il a toujours manqué un truc à Rennes. Bah, c'est la stabilité et l'ambition. Moi j'ai l'impression que la stabilité d'un côté, j'espère du moins qu'elle va arriver. Les choses ont un petit peu bougé en interne. Olivier Létang est arrivé.
Ouais,
vas-y. Il vient d'arriver. Olivier Létang est arrivé. Sabri Lamouché est arrivé aussi avec lui. On sait que entre les deux, ça a matché, puisque Sabri Lamouché l'avait expliqué. Il avait eu ce fameux entretien d'embauche. On espère que ça va justement être stabilisé. Après, tout est relatif. Rennes, aujourd'hui, peuvent incarner la stabilité. Quand on voit les prétendants aux places qualificatives pour la Coupe d'Europe, il y a Saint-Étienne. C'est un peu comme Bordeaux, on sait même pas qui sera l'actionnaire très certainement dans certains mois. Sans parler du mercato qui va arriver, qui est très incertain pour ces deux clubs. À Nice, on sait aussi que finalement ça va bouger. Il semble avoir trouvé un peu de stabilité. Alors c'est vrai qu'il manque l'ambition. C'est souvent ce qui a manqué à Rennes d'ailleurs ces dernières années, ces dernières saisons. Lamouchi dans son discours, il semble véritablement l'avoir. Olivier Létang, quand il est arrivé, il a semblé lui aussi vouloir démontrer ça. Maintenant, il va falloir que les patrons suivent. Mais c'est vrai que Rennes, avec cette cinquième place, je me souviens, on en avait un peu débattu il y a quelques semaines ici. Moi, je sais pas pourquoi j'ai toujours cru en cette équipe. Peut-être parce que je voyais pas les autres réussir aussi. C'est peut-être la réussite parce que les autres sont pas encore là. Lamouchi d'ailleurs l'avait déclaré lui-même hier quand il arrivait à Rennes. Le place européenne n'était pas nécessairement l'objectif. Mais là, Rennes, on a souvent dit ça. Hein. Mais là, parce que tous ces facteurs sont réunis, je pense que Rennes a vraiment un coup à jouer dans son histoire, dans sa construction, dans la fameuse marche qu'ils ont à avoir pour être un vrai club européen prochaines années.
T'as souvent dit, il leur manquait une chose. Pour moi, ce qui manquait en premier, on en avait parlé, je crois que j'avais fait un avis tranché, il me semble, là-dessus aussi, il y a un petit moment maintenant, c'était encore en 2017. Il leur manquait, c'est la première fois qu'à la tête du Stade Rennais, l'actionnaire choisit quelqu'un qui connaît le foot.
Oui.
On aime ou on n'aime pas Olivier Létang, peu importe, c'est quelqu'un qui est dans le foot depuis un moment, qui connaît les principes d'un club de foot. Et ça, je suis désolé pour ceux qui étaient là avant, c'était pas des gens issus du milieu du football, tout simplement. Et Olivier Létang a remis des principes.
Patrick Lelay connaissait super bien le foot.
Pas comme un homme de terrain, tu vois. Enfin, ah oui, non, ok, d'accord. Putain, tu me chambres parce que, putain, la vache. Oui, à la télé, quoi, à la télé. Mais, non, mais c'est vrai, je suis désolé pour ces gens-là parce que je suppose qu'ils ont essayé de faire bien, quoi.
Ils connaissaient vachement bien le Real de Madrid, le Barça.
Le Barça. Elle a dit ça, le Barça?
Ah ouais, ça. Ouais. Le mec, il a pas vu la CD.
Ça me rend fou.
C'est comme ça.
Ceci dit, c'est la première fois pour moi qu'on remet des principes de base dans le club du Stade Rennais. Et comme par hasard, ça marche un tout petit peu mieux parce que effectivement, après, il y a tout ce que tu as dit. Il y a toutes les structures qu'il faut. Il y a l'engouement derrière. Il y a de l'argent aussi. Forcément, ça fait. Il y a un centre de formation qui est performant. Enfin voilà, il y a tout le reste. Et quand en plus cette personne qui connaît le foot, remet un peu l'église au milieu du village en choisissant quelqu'un qui lui correspond à la tête de l'équipe, bah ça marche encore plus vite que prévu peut-être.
Jérôme Thomas me fait signe, visiblement Patrick Lelay va répondre.
Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le Barça, des équipes qui savent surmonter l'adversité.
Merde. Tu que ça, c'est un classique de l'after.
Putain, mais je l'avais jamais entendu, moi.
Ah ouais, c'est vrai?
Ah,
bon, mais même dans le jingle, au début, des fois.
Il avait dit ça où?
Bah, non, je sais plus où il l'avait dit.
Je sais plus.
Non.
Mais il l'avait dit.
Oh, le con. Ton avis sur le Stade Rennais, Daniel?
Putain, c'est fou, ça, parce que, putain, mais tout le monde le sait, ça, le Barça, quand même.
Alors, Rennes retrouve la Coupe d'Europe, sur les 15 dernières années, c'est pas une équipe, qui n'y est jamais allée, hein.
Non.
C'est une équipe qui a fréquenté la Coupe d'Europe. Certes, on en a peu de souvenirs parce que c'était toujours un peu folklore.
Je crois qu'ils avaient un record même. Ils avaient fait un point sur deux saisons, un truc comme ça.
Ouais,
en Coupe d'Europe.
Contre des adversaires souvent au nom pittoresque. Ils étaient un petit peu dans le sac de toutes ces équipes qui fréquentaient l'Europa League dans le championnat de France. Tout le monde a eu un petit peu son droit d'entrée et a tenté sa chance et souvent s'est fait bananer par des équipes un peu dingues. Donc c'est pas une découverte. Maintenant là, il termine. J'ai l'impression que cette cinquième place là, elle est un petit peu plus propre. Les autres fois, ils atteignaient la Coupe d'Europe. Je sais pas. J'avais le sentiment que c'était un peu plus à l'arrache. Là, cette cinquième place pour moi, ça met Rennes à sa place. Rennes, ça a toujours été pour moi deuxième chapeau, au même titre que Bordeaux, Saint-Étienne, dans un premier temps. Après, voir si les autres boss Nice peut être également mis dans ce chapeau-là, mais Nice c'est peut-être un peu plus récent là.
Ouais, tout à fait.
Mais tu te rends compte que cinquième ce serait leur meilleur classement depuis 2006-2007 où ils font quatrième. Hein. Ils sont toujours finis en dessous. Hein,
c'est voilà. Mais pour l'instant,
ouais, parce que ça a souvent été Saint-Etienne ces dernières années qui s'y collait.
Rennes peut avoir beaucoup d'ambition. A priori, le top 4 il est bouclé chez nous. Au niveau des moyens, des joueurs, tout. Maintenant, c'est pour ça que je dis Rennes cinquième, c'est une très belle place. On peut dire à sa place si on considère qu'ils sont à la lutte avec les équipes que j'ai citées avant. Ce qu'il y a de positif, je trouve là, c'est qu'il y a toujours manqué à Rennes sur les dernières années là quand ils faisaient leurs apparitions en Coupe d'Europe ou même leur saison où ils faisaient naître de l'espoir. Hein. Moi, je me souviens d'une intersaison où ils doivent être deuxième avec Antonetti à la trêve. Et où on est beaucoup à se dire, tiens, si c'est l'année de Rennes, pour finir sur le podium, bon, résultat, ça s'était mal passé, presque comme d'habitude, sur la fin, où souvent ils lâchent, parce que l'année où Roland les entraîne, où il reprend le club après Montagnier, ils sont également très bien placés à 6 journées de la fin, et ils perdent les 6 derniers matchs. Il y a un truc nouveau, je crois, c'est une réelle exigence. Et ça rejoint ce que tu disais, Pierre, à savoir que là, pour le coup, t'as un duo, parce que là, c'est vraiment un duo qui est à la tête du club, c'est l'étang Lamouchi, qui m'a l'air de pas vouloir se laisser marcher sur les pieds et de savoir où ils veulent aller. Je pense qu'ils ont écrit leur petite histoire sur cette saison et l'histoire qu'ils ont envie de faire perdurer.
Ils ont posé les bases.
Voilà, je crois qu'ils savent où ils ont envie d'aller, sans péter plus haut que leur cul, sans vouloir aller trop vite, mais juste déjà en étant à leur place, avec des joueurs. Hein. Il y a plein de mecs dont on n'a pas beaucoup parlé cette année, parce que Rennes, c'est ça aussi, c'est qu'il va falloir qu'ils gagnent un petit peu leur place ailleurs, c'est-à-dire même ici. parce que forcément ils passeront toujours derrière les quatre dont on va toujours plus parler qu'eux. Mais voilà, là aussi il va falloir qu'ils gagnent du terrain.
Mais tu veux dire quoi, ils sont trop gentils, trop lisses?
Non, mais c'est normal qu'après tout,
en termes de budget,
de l'OM, de Paris, de Lyon, c'est normal.
Oui, mais on parle plus de Saint-Étienne par exemple, voire même de Bordeaux hein, qui fait
pas
mieux
en ces derniers temps. Normal, Rennes n'était pas là.
Oui, mais Bordeaux par exemple a pas fait une saison dingue.
Il y a un historique.
Ouais.
Il y a un historique. Rennes historiquement c'est rien. Il n'y a pas de choses qui ont pu te faire vibrer et tout. Alors que j'ai toujours été d'accord avec tes arguments, qui est de dire qu'à Rennes, il y a une matière pour travailler.
Ah oui.
Ça, c'est évident. Tes arguments sont justes. Maintenant,
puis y a des mecs aussi, ça,
là. Je termine avec des mecs qu'on a
écoutés.
Le gardien, Koubek, bien.
Ouais.
Bourigeaud. Il y a des gars vraiment, en dehors de Mouchi, dont j'ai parlé plein de fois,
qualité,
parce que c'est un type que j'aime bien, qui a un discours cohérent. Il y a des mecs qu'on va découvrir. Donc maintenant, à eux de continuer et de pas faire ce qu'ils ont souvent fait, à savoir rebasculer dans le ridicule, qui a souvent été un peu leur marque de fabrique. Là, ça m'a l'air solide.
On n'a pas l'impression que ça peut.
Et évidemment, moi, j'ai envie d'y croire, ouais.
Et de voir ce que d'ailleurs ce fameux duo va pouvoir faire avec une équipe qui l'aura construit lui-même.
Et les galettes saucisses, on n'en parle pas non plus.
Bah, ça fait partie de l'identité.
Il va falloir qu'il nettoie l'effectif, qu'il remette des joueurs. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot.
Oui, oui.
Mais je trouve un boulot positif, quoi.
Accueillons Arthur, supporter rennais, qui nous appelait au 32-16. Salut, Arthur.
Salut à toute l'équipe. Excusez-moi, petite extinction de voix là avec hier soir. On a un peu fait la fête avec la victoire rennaise.
Ah bah écoute, c'est tant mieux, ça, ouais, c'est une bonne extension de voix alors.
Ouais.
Voilà. Alors qu'est-ce que t'en penses toi, Arthur?
C'est chiant pour passer à la radio, effectivement.
Est-ce que tu penses que ton équipe, elle est finalement un tournant peut-être là?
Oui, alors oui, je pense que à partir du moment où Monsieur Létang est arrivé lors de sa première conférence de presse, on était au tournant en fait. On tourne une page. Ou peut-être on écrit même, on commence à écrire déjà un livre, je veux dire. Parce qu'avant, c'est vrai, comme dit Daniel, d'accord, Rennes c'est un beau club, il a été souvent en Ligue 1, mais il n'y a pas réellement d'histoire. On a vibré lors de quelques épopées, on va dire, enfin pas très longues, mais en tout cas voilà, on est un tournant de l'histoire, je pense, avec Monsieur Létang et Sabri Lamouchi. Il y a réellement quelque chose à faire, mais je suis pas non plus ultra optimiste, je suis pas pessimiste, mais je suis un petit peu dans l'interrogation, parce qu'on pourrait... On pourrait penser que 6 mois, voilà, pour Lamouchi, parfois c'est un coup de chance. Il y a plusieurs clubs, voilà, en 6 mois, ils ont réussi à bien se replacer, et la saison d'après, qui sont écroulés. Donc, je reste un petit peu, pas sceptique, mais je suis quand même optimiste, mais prudent, voilà, prudent.
Ah, le Rennais, de toute façon, historiquement, doit être prudent vu les désillusions.
On a eu très peu de supporters Rennais qui étaient complètement déglingos, hein, te le dis tout de suite. Hein. Ah si, on en a eu un tout à l'heure, Marc, qui était très bon, mais... Non, il a fait une expression monumentale.
Ah ouais.
Oh, ouais, non mais génial.
Je l'ai pas entendu.
Vas-y Arthur.
Non, il faut être prudent parce que voilà, moi j'aime bien en fait qu'on parle pas forcément de nous. On n'en ressent pas forcément le besoin. Non, il faut qu'on travaille de notre côté. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir une couverture médiatique ultra importante. Qu'on parle plus de Nice, qu'on parle plus de Saint-Étienne, de Bordeaux. Nous, on fait le travail. Le plus important, c'est le résultat à la fin. Et je pense qu'on est dans cette optique-là de travail. C'est cette direction-là qu'il faut suivre. Et Monsieur Létang, on le ressent à travers ses paroles, même dans les choix de Lamouchi, que clairement, il y a des ambitions. Après voilà, la 5e place n'était peut-être pas envisageable d'après la direction cette année, mais bon, c'est toujours ça. Donc il va falloir réellement se concentrer l'année prochaine et vraiment ne pas brûler les étapes, surtout pas.
Merci Arthur d'avoir été avec nous en tout cas. Bonne soirée à toi Arthur.
Bah merci à vous de m'avoir accueilli.
Merci Ben. Ciao, bonne soirée Arthur. Dans quelques instants, nous, eh bien, on vous égrènera les questions de l'after. On rappelle que Neymar a été élu joueur de la saison au trophée UNFP. Est-ce qu'il mérite ce trophée? Tiens, on vous posera la question dans quelques instants. Il y aura également, il y a pas mal de rumeurs.
Pour moi,
c'est même pas des rumeurs, des infos de Mercato.
Meilleur joueur pour moi, il y avait après peu importe qui mettait. Pour moi, Neymar, Luis Gustavo, Cavani, peu importe l'ordre. C'était mon trio dans le désordre.
Oui, oui, le podium, on le connaissait. Ouais.
Après
voilà. C'est est-ce que tu récompensais la régularité de certains, Gustavo, Cavani, ou le talent effectivement,
ouais,
le côté artistique et hors norme.
Donnez-moi les trois, moi ça m'allait, quoi. Vraiment.
Alors on vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live dans quelques instants avec Daniel Riolo et avec Pierre Ducrot. À tout de suite pour la suite de l'after.
RMC, le super football show, l'after foot.